Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Germain, on s'est gardé de parler du Maverick avec un peu plus de détails parce qu'on a avec nous cette semaine Marc Lachapelle, notre cher collègue du Guide de l'auto. Marc, qui a débuté au Guide de l'auto pour parler des camionnettes compactes.
Il y a de ça quelques années.
Oui, il débarquait sur le marché nord-américain alors que j'avais quoi, 4-5 ans peut-être, les premières camionnettes américaines. 82, là c'est ça, j'avais 5 ans. Alors Marc, bienvenue parmi nous.
Bonjour Marc.
Ben bonjour monsieur.
Alors Marc, toi tu étais d'abord, pour la petite histoire, là, peut-être oui. Rappeler aux gens comment tu as mis le pied dans l'engrenage du Guide de l'auto.
Ben, je vais faire ça en condensé, c'est facile à expliquer. Moi je connaissais déjà Denis Duquet, j'avais connu par comme journaliste à la pige là, finalement. J'étais travaillé dans le domaine de la moto. Moi, j'étais journaliste de moto à l'époque, mais je me suis toujours intéressé à l'automobile depuis les années 60. J'ai les magazines, puis tout ça. Toutes ces choses-là m'intéressaient. Mais je travaillais beaucoup du côté de la moto, puis Denis savait que je faisais de la photo, puis toutes sortes de choses. Puis je vais lier au journalisme aussi. Puis, ça donne que Monsieur Duval, Jacques Duval, n'aimait vraiment pas, puis il n'aime toujours pas les camions, camionnettes, utilitaires, tout ce qui ressemble à ça.
Ouais.
Et puis, ils étaient tous les deux déjà bien occupés avec tout ce qui s'appelait automobile. Ils ont cherché, justement, avec l'avènement des camionnettes compactes, ça grossissait, là. Il y avait une expansion incroyable, justement, quand les Américains sont arrivés. Ils cherchaient quelqu'un pour faire des essais, faire une section spéciale. Alors, pour faire une histoire courte, je me suis retrouvé à faire peut-être une vingtaine d'essais. Je ne me rappelle pas exactement le chiffre précis. Mais j'ai écrit pour ma première participation officielle au Guide de l'auto, j'ai écrit toute une section sur les camionnettes compactes. Puis voilà, le reste, mais ça fait partie de ma petite histoire.
Et tout ça est peut-être un peu paradoxal parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ses débuts avec les camionnettes parce que les plus jeunes comme moi ont pu te voir, entre autres, là, à la télévision, à Vox, en train de conduire des bolides d'exception à des vitesses, oui. Des vitesses fulgurantes, mais c'était des débuts.
Puis on parle pas d'un F-150 Lightning, là.
Non, on parle de bolides exceptionnels dans les hautes voltiges, mais c'était des débuts avec des camionnettes un peu plus lentes.
Oui, c'est drôle parce qu'il y a toutes sortes de coïncidences amusantes si tu mentionnes ça, camionnette. Puis, mais le métier, ce métier-là m'a permis de découvrir, entre autres, que j'étais pas si mal avec pas pire avec un volant entre les mains. Puis c'est vraiment ironique parce que j'ai découvert ça de façon concrète lors d'un voyage au Japon. C'était justement pour essayer une nouvelle camionnette Mazda. Puis les gens avaient organisé, vous savez ce que c'est, là, des autocross, épreuves de slalom. Puis j'étais là, puis il y avait
avec un Mazda de série B?
avec un Mazda de série B.
Oh moi. Puis
pour amuser les journalistes, amuser les journalistes, ils avaient mis sur pied une épreuve d'autocross chronométrée avec un slalom, puis ça. Moi, j'aime conduire, j'ai toujours adoré conduire, point final, là. J'aime beaucoup la moto, puis je conduis des véhicules à quatre roues, évidemment. Puis, on part, puis tout ça. Moi, j'ai une petite camionnette, comme vous dites, j'avais modifié la suspension, abaissée, qui était vraiment, vraiment amusante à conduire. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est ça. Je me suis amusé à conduire, puis j'ai découvert ce jour-là que j'étais peut-être pas si mauvais, parce que j'ai gagné le fameux slalom, la fameuse épreuve d'autocross par une seconde et trois dixièmes, quelque chose de même. Fait que un genre de révélation pour moi. Puis c'est ça, Germain, qui m'a mené de fil en aiguille.
C'est quand même ironique d'avoir fait de l'autocross avec un série B.
Oui, c'est très improbable, là.
Oui, mais c'est drôle parce qu'ils avaient vraiment bien modifié, les pneus étaient plus larges. Suspension, écoutez, une camionnette, là, Pensez à une série B, une petite camionnette japonaise. C'était assez léger.
Ouais.
Le châssis était rigide.
Oui, le poids était très bien équilibré, d'ailleurs.
Ben oui. J'en ai conduit. Ben, écoute, pour conduire l'hiver sans avoir les quatre roues motrices au Québec, c'est une histoire. Ça, j'ai quand même vécu ça avec plusieurs camionnettes. Mais sinon, c'était, ça survirait.
Instantanément, ben oui, c'est sûr.
Ben oui, c'est le fun. Alors, ça a amené à tout le reste, finalement. Puis l'année suivante, après cette première année-là, déjà, M. Duval m'a confié des essais d'automobile. Je présume que j'ai fait un job correct en bon québécois pour les camionnettes. Mais j'ai continué à m'intéresser aux camionnettes.
Puis évidemment, les premières camionnettes compactes qui sont arrivées en Amérique du Nord, ce sont des camionnettes japonaises. Les Américains n'avaient pas mis le pied dans cette business-là. En fait, les Japonais proposaient des camionnettes compactes pendant que les Américains avaient quelque chose de pas mal plus gros, là.
Oui, ben c'est ça. Puis je pense qu'ils ont dû on va présumer qu'ils se sont réveillés quand ils ont vu les chiffres de vente, puis quand ils ont vu que Toyota puis Datsun à l'époque, parce que c'était Datsun encore à ce moment-là, qui connaissaient quand même une certaine réussite avec ces modèles-là. Puis là, ben Toyota, ben c'est, moi, à mes yeux, c'est vraiment Datsun qui a donné le coup d'envoi, qui les a peut-être réveillés le plus solidement quand ils ont lancé leur fameux King Cab.
King Cab, bien sûr, absolument.
Ben oui, la première camionnette à cabine allongée, c'est un trait de génie, hein, c'est une idée de génie.
Et allongée, il fallait le dire vite à ce moment-là.
Oui, c'était même pas. Écoute, il y avait deux petits strapontins, là, deux petits sièges qu'on abaissait à l'arrière, mais ça changeait tout, hein. On en a parlé tantôt là, juste avant avant l'émission. Mon premier véhicule, moi, c'était un Scout, un petit Scout international qui était la version camionnette. Il y avait absolument pas d'espace dans la cabine. Là. C'était un coffre à gants, puis c'est tout. Quand on parle de, c'est un peu une blague, quand on parle aujourd'hui que le rangement est ordinaire, ben c'est déjà probablement trois fois plus que ce que j'avais dans
la cabine. Ah oui, aujourd'hui, tu peux mettre un laptop dans ton accoudoir, puis à cette époque-là...
Puis aujourd'hui, on a conservé l'appellation cabine régulière pour une camionnette, finalement, avec pas d'espace... Pas d'espace à l'arrière dans la cabine, mais c'est plus du tout la norme. Là. C'est
non,
plus
c'est
du
ça.
Tout ça. Mais on a conservé l'appellation régulière, ce qui est assez ironique. Oui. Là.
C'est absolument ironique parce que on perçoit ça comme le contraire. C'est plus maintenant aux yeux de à peu près tout le monde, ça serait une cabine contractée ou une cabine amoindrie.
Moi, j'ai 85% des ventes de pick-up aujourd'hui, c'est du 4 portes.
Absolument. Et même sur le plan du design, on voit qu'ils ont été pensés aujourd'hui pour être 4 portes parce que quand on les voit avec 2 portes seulement,
ils se mettent une moulure de plastique disgracieuse pour essayer de boucher un trou parce que c'est designé en ce sens-là.
C'est un peu... ça choque l'œil, alors qu'auparavant, c'était la norme. Marc, si t'es avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'on assiste finalement à la naissance, à l'arrivée d'un nouveau segment chez les camionnettes. Antoine et moi, on n'est peut-être pas encore tout à fait d'accord sur sur le positionnement des deux nouveaux véhicules. Bon, on y va dans l'ordre. Il y a quelques semaines, Hyundai a dévoilé le Santa Cruz, un véhicule pour lequel on nous présentait des prototypes et des versions conceptuelles depuis plusieurs années. Et là, on débarque enfin avec ça. Antoine, de son côté, pense que ça va être davantage un rival du Honda Ridgeline, mais là, bon, coup de théâtre, cette semaine, Ford a dévoilé le Maverick, qui ça va véritablement être véritablement être une camionnette compacte, là, bien plus petite et compacte que le Ranger, qui lui est un intermédiaire. Donc, est-ce que effectivement, on assiste à l'arrivée d'un nouveau segment dans l'automobile? J'ai bien l'impression que oui, là.
Et franchement, il y a matière à débat. J'ai été vraiment impressionné quand j'ai vu arriver le Maverick, parce que, écoutez, ça arrive quoi? Deux semaines à peine après le dévoilement de la F-150 Lightning, qui était justement, pas un coup de tonnerre, mais qui était
oui, un gros coup d'éclat.
Un éclair de génie. Éclair, puis,
c'est un éclair de génie, oui, effectivement. Écoute, c'est vrai, quand même. Puis, puis là, Ford nous arrive avec ça. On savait quand même que quelque chose qui arrivait. On a vu des photos de prototypes, etc.
Ouais.
Non, c'est drôle parce que je vois... On parle de l'époque où j'ai débuté. Je trouve que je reconnais beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux parce qu'à l'époque, je regarde toute l'étendue des véhicules que j'ai essayés. Ça allait des Chevrolet S10, Datsun Kincaid, mais ça allait jusqu'à au Dodge Rampage. Le Dodge Rampage, qui était une petite voiture. Puis moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, le Rampage, la camionnette Volkswagen, parce qu'il l'appelait pick-up, apporte un autre nom en Europe. Je suis sûr qu'Antoine, que vous deux, vous avez
le Caddy. Oui, le Volkswagen Caddy.
Caddy, hein, je pense.
Ouais.
C'est ça. Ils n'ont jamais utilisé ce nom-là en Amérique du Nord. Moi, j'ai conduit ça avec un petit moteur diesel. Alors, si tu regardes toute la gamme, la variété déjà qu'on trouvait dans cette catégorie-là, au début des années 80. Moi, c'est exactement ça que je retrouve. Là.
Ben oui, parce qu'on retrouve, en fait, ce sont des véhicules monocoques. Fait que c'est plus... On n'utilise pas un châssis indépendant, là.
Ouais, ça,
c'était le cas de la Rampage puis de la camionnette Volkswagen aussi.
Exactement. Il faut dire que c'était les deux exceptions, tandis que la nouvelle Maverick est construite sur une carrosserie autoporteuse. Là. C'est vraiment une monocoque, entre guillemets. Là.
Et c'est le cas du Santa Cruz également.
Absolument, c'est ça, ce qui est dérivé du Tucson. En gros, c'est l'architecture qui est partagée avec le Tucson. Je trouve ça bien intéressant parce que, puis en plus, ça me fait penser à deux autres véhicules qui sont des hybrides, mais pas au sens de la propulsion, parce qu'on va parler d'hybrides bientôt, là, dans le cas du Maverick. Mais ça me fait penser au Chevrolet El Camino et au Ford Ranchero. Et ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que j'ai été aussi propriétaire d'un El Camino, en plus du Scout. Je retrouve... ce genre de véhicule-là, surtout en regardant le Santa Cruz, en épluchant un peu ce qu'on a eu de fiches techniques, parce que c'est un petit peu rudimentaire, on n'a pas tous les détails, mais c'est un véhicule qui est quand même plus compact, il y a quand même une recherche de style aussi, c'est quand même beaucoup de gueule, à mes yeux en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de gueule, puis le côté, c'est plus le côté voiture, le côté... de civilité qui est là, mais ça peut quand même tracter 5000 livres, etc.
Ben, 4000. Justement, pour celui qui a peut-être pas suivi l'actualité cette semaine, qu'est-ce qu'il faut savoir au sujet du nouveau Maverick?
Le nouveau Maverick. C'est drôle parce que ma première perception, je pense que c'était deux versions distinctes, mais c'est pas ça. La version de base, entre guillemets, c'est, il faut savoir, là, c'est une camionnette traction. C'est une camionnette à roues avant motrice.
Ouais.
Mieux que ça. À groupe propulseur hybride. Donc, on se retrouve avec une camionnette qui est quand même de profil assez traditionnel, avec une ligne, avec une silhouette anguleuse, une carrosserie anguleuse, qui a toute l'apparence d'une camionnette classique, mais qui est à roues avant motrice, puis à groupe propulseur hybride.
Ouais.
Alors, ça, c'est quand même déjà quelque chose. Puis, au lieu de créer une deuxième version, ce que j'en ai compris là, à regarder toute la documentation de Ford, puis ce qu'ils annoncent déjà sur leur site, parce qu'on peut déjà commander, c'est que en optant pour le groupe propulseur optionnel, justement, le deuxième, c'est un 4 cylindres de 2 litres turbo-compressé qui, lui, arrive avec 4 roues motrices. Donc, c'est ça ma première perception, de manière que ça a été présenté, c'est quand même comme deux modèles distincts. En fait, c'est trois niveaux de présentation. C'est XL, XLT ou l'Ariat.
Ouais.
Avec le choix de ces deux groupes les deux groupes propulseurs différents. Puis je trouve que ça fait deux véhicules. Il y a évidemment beaucoup de similitudes, mais ça fait quand même...
C'est deux approches différentes, là. Traction et hybride ou quatre roues motrices, quatre cylindres turbo, là. Il y a un monde entre ces deux-là, là.
Savez-vous à quoi ça m'a fait penser? C'est drôle, ça m'a fait penser à une fable de La Fontaine, le rat de ville et le rat des champs. Il y en a une camionnette, une traction à groupe propulseur hybride dans ma tête. C'est une camionnette urbaine, tu sais, c'est une camionnette banlieusarde. Tu sais, je sais pas, les vrais amateurs de camionnettes vont garder ça avec un trou de
gueule. Oui, mais je pense pas qu'on essaie non plus d'aller charmer des acheteurs de F-150. Là.
De toute façon, moi, ce que je vois à travers ça, c'est, tu sais, j'en parlais avec Germain Hordon, j'ai dit, tu sais, pour moi, ce nouveau Maverick-là, c'est ce qui vient remplacer une Fusion, une Focus, une Fiesta. Ford n'a plus de voiture et pour se démarquer et pour rejoindre une clientèle qui achète des véhicules plus compacts et moins onéreux, bien, plutôt que de lancer une nouvelle voiture, on débarque avec une formule camionnette qui plaît à l'acheteur moyen nord-américain et qui va s'y retrouver en économisant de l'essence ou en consommant un peu comme avec une voiture compacte, comme avec une Honda Civic.
Parce qu'on est dans, dans cette zone de prix-là, en plus.
Puis on est capable de vendre un véhicule à 30 000 $ sans que le client ait l'impression de se faire avoir, alors qu'on est plus capable de vendre des Focus à 17 000.
Oui.
Fait qu'il y a ça aussi, là.
Ou des Cosport à 26 000, mais ça,
ouais,
c'est une autre histoire.
C'est ça. Mais c'est drôle parce que c'est ce que finalement, ouais, c'est ce que je vois aussi, le côté. Ce que je trouve ironique, c'est que si on regarde les acheteurs et acheteuses de camionnettes, quand même des femmes qui en conduisent, là, même certaines bien connues, c'est pas c'est quoi l'utilisation réelle d'une camionnette pour toutes ses qualités pratiques? C'est un pourcentage qui est peut-être pas aussi élevé. C'est sûr que tous les contacteurs en ont une. Puis même là, le patron se promène, mais il ne sert peut-être jamais de la plateforme à l'arrière.
Oui, c'est ça.
Puis c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a quand même un élément qui n'est pas rationnel là-dedans, mais que ça fait quand même des véhicules là, intéressants à conduire, puis pratiques, puis robustes, puis tout ça. Puis effectivement, comme Antoine le disait, si on ajoute là-dedans la frugalité d'un groupe d'un propulseur hybride, ça devient intéressant parce que 5,900 litres au 100 km, on commence à parler de consommation intéressante. Même
ben, on est au niveau d'une Civic, là.
Ouais.
On est carrément là.
C'est ça, ouais. Exactement.
Alors, tu sais, c'est... Puis comme l'automobile peine à se réinventer, comme les parts de marché baissent de plus en plus...
Et comme il y a un engouement pour les camionnettes en général...
Ben Ford, absolument. C'est un coup de génie pour moi de la part de Ford qui a pris le lead dans ce segment-là.
Oui.
Puis tu sais, on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, il y a des constructeurs qui ont essayé quelque chose. Pense à Subaru avec la Baja.
Oui, c'était un essai.
Tu sais, une caisse de 4,5 pieds, c'était ça, là.
Oui, avec un châssis de voiture, là, et une allure hors route, dit rapidement, ben c'était exactement ça. Mais ça n'a pas, levé.
Non.
Non. Mais moi, c'est plus le Santa Cruz qui me fait penser au Baja.
Oui.
Au Brat aussi, qu'on n'a pas eu au Canada, mais qui est un petit peu, qui est encore plus compact.
Mais qu'on on l'a eu, le Brat, au Canada, quelques années.
Est-ce qu'on l'a eu?
Ouais.
On l'a eu, vois-tu, moi, il m'est passé sous le nez parce que je me rappelle même pas.
Avec les sièges en plastique dans la caisse à l'arrière.
À l'arrière, là,
ouais pour la chicken...
La chicken tax.
Ouais, c'est ça.
La chicken tax, c'est mon tout. C'est un beau défi d'expliquer ça en 30 secondes.
Une taxe de poulet.
Oui, voilà.
Mais
est-ce que tu vois le Santa Cruz comme un rival direct du Maverick ou comme étant deux véhicules plus distincts que ça?
Ils sont très distincts. En fait, c'est drôle parce que ce que j'ai retrouvé, c'est bien intéressant de regarder la présentation que Ford en fait. Surtout après, moi, je suis vraiment intéressé à ce qu'ils ont fait avec la Lightning comme présentation, toutes les ramifications. Mais pas seulement la Lightning aussi, la F-150 qui a été redessinée l'an dernier quand ils sont arrivés avec toutes les innovations qui sont pratiques, les onduleurs électriques à l'arrière. Ils sont vraiment sur un élan, sur une...
Bon, ils ont des problèmes avec la technologie Power Boost, là, déjà. On sait qu'ils ont des problèmes mécaniques avec ça, mais bon.
Oui, mais ça, c'est comment dire ça, là, c'est un peu la rançon de l'innovation, là. Mais au moins, il y a une espèce de foisonnement d'idées. Mais il y a la même chose avec le Bronco Sport. Moi, j'ai regardé le Bronco Sport, puis en fait, on l'a essayé l'automne dernier pour avant de soumettre nos votes. Puis le Bronco Sport, ce que j'ai trouvé dans la version Batland, ben là, c'est un véhicule qui est intéressant, mais je vais penser... Et pour m'empêcher, j'ai pensé à Antoine, j'ai pensé à toi quand j'ai vu les fiches techniques pour le Maverick. Je me suis dit, Dieu merci, ils n'ont pas mis de trois cylindres
là-dedans. Ben non, ça aurait été une erreur là, de répéter ça. Là.
Non, puis le pire, c'est que pire, c'est qu'un trois cylindres là-dedans, ça me donne l'impression d'un véhicule qui est encore plus petit qu'un Bronco Sport. C'est vraiment un véhicule compact. Oui. Alors, est-ce qu'un trois cylindres... Bon, moi, je suis pas trois cylindres en partant. Je ne crois pas à l'avantage d'une technologie à moteur trois cylindres. Il y en a pas. Je veux dire, ça consomme autant, ça force plus, ça vibre davantage. Faut que tu compenses les vibrations avec un paquet de supports. Il y a aucun avantage à avoir une mécanique comme ça. Il n'y en a pas. Autre que dans certains pays, avoir des crédits de taxes à la cylindrée.
C'est ça, de répondre aux critères.
La fiscalité.
C'est ça. Ouais. Fait que, bon. Mais on a un moteur 2,5 litres, donc de bonne cylindrée avec hybridation. Ça, je pense que ça va être intéressant. Puis en même temps, on ne connaît pas la puissance actuellement, mais je serais curieux de voir ce que cette technologie-là pourrait même faire avec un rouage intégral.
Pourquoi pas?
En fait, c'est ça. Moi, c'est entre autres ça que je me suis posé comme question. Parce que, regardez, on regarde ce que Toyota a fait cette année, récemment, avec le Venza puis la Sienna, qui sont allés comme il dirait à Las Vegas, all-in, pour un groupe propulseur hybride. Là, Ford, puis je pense qu'on n'accorde pas à Ford tout le mérite qui lui revient pour ces modèles hybrides. C'est sûr que Toyota, on connaît le rôle de pionnier que ce constructeur-là a eu avec l'hybridation. Mais Ford, moi, je me rappelle, les fusions, les premières fusions même.
Oui, mais si on prend le C-Max, là, c'était pas ce qu'il y a de plus convaincant. Là. Puis même quand on a joué dans l'électrique avec la Focus, là, c'était pas un grand chelem.
Moi, si vous voulez mon avis, c'était pas tant la technologie le problème que...
Tout le reste
autour. Le désintérêt du constructeur à en vendre. Ce pourquoi les hybrides n'ont pas fonctionné chez Ford pendant 10 ans, c'est parce qu'on voulait rien savoir d'en vendre. Mm. Tu te présentais chez Ford pour acheter un Escape hybride, le taux de financement était à 7,9, mais on te faisait un V6 à 0,9. Ouais. Fait que tu te cassais pas la tête, tu prenais le V6, puis ils voulaient rien savoir de t'en vendre un. Puis ça a été comme ça jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas le choix. Pis la dernière fusion hybride, c'était une bonne voiture, effectivement.
Ça oui.
Voilà. Puis la précédente aussi, moi, à mes yeux, c'était... C'est ce que je dis. C'est pas parce qu'il n'avait pas la capacité. Alors, si il nous arrive avec un Maverick, qui est un gros propulseur hybride dès le départ, je pense qu'on a que ceci explique cela, non?
Ben, ça va être une... Moi, je crois énormément au succès de ce produit.
Ben voilà. Ça m'amène sur un autre terrain. On sait qu'avec la série F, Ford est un peu le roi du monde. Bon, en 2018-2019, quand on est arrivé avec le Ranger, on s'est dépêché d'arriver avec cette camionnette-là, une camionnette qui était vendue ailleurs dans le monde, qui était peut-être pas nécessairement adapté aux besoins des Nord-Américains. Et
je te corrige là-dessus, parce que Ford a mal joué ses cartes là-dessus. On a été en réaction au succès de Chevrolet. GM est arrivé en 2015 avec les Colorado Canyon et ça a connu un succès
avec
tel.
Un choix de moteur, tout ce que tu veux.
Puis, ça a connu un succès tel qu'on a ouvert un deuxième corps de travail à l'usine de Wentzville. Puis là, Ford a fait, OK, mais on n'a rien, nous autres, pour bâtir un pick-up compact ou intermédiaire en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben là, il y a un syndicat qui nous oblige à fabriquer des Focus jusqu'à la fin de l'année 2017. On va faire ça. Puis après ça, ça sera l'usine de prédilection pour fabriquer le Ranger. Mais ils ont attendu 2 ans et demi, 3 ans avant de pouvoir réaménager une usine pour finalement fabriquer un pick-up qui avait été développé pour d'autres marchés qu'on a adapté chez nous maladroitement. Tu sais.
Ben c'est ça. Donc aujourd'hui, le Ranger n'a pas le succès qu'il aurait dû avoir.
Il est arrivé trop tard.
Là, en ce moment, on en vend parce que tout le monde veut une camionnette. Mais là, avec le Maverick, comment ne pas répéter cette erreur-là commise avec le Ranger?
Mais ça ne peut pas arriver parce qu'on est pionnier.
Oui, mais on était pionnier avec le série F avant d'arriver avec le Ranger, puis on s'est planté quand même.
Mais le Ranger, moi, je peux seulement parler des vins que je goûte, là. C'est souvent ma manière de décrire le métier qu'on fait. Moi, j'ai été déçu du Ranger à l'utilisation, au concret. Puis c'est sûr que le langage des chiffres, le côté prix, puis tout ça, ils n'avaient pas l'équation. Mais le véhicule lui-même était décevant. Coudonc, il n'y a pas 42 manières de le présenter autrement. Alors, s'ils n'avaient pas un produit gagnant, que tu peignes, ouais, en tout cas, j'ai toutes sortes de métaphores qu'on pourrait utiliser pour comparer, mais tu sais, tu peux le maquiller tant que tu veux, ça ne veut pas dire que ça va se vendre mieux.
Maquiller, oui, c'est ça.
Oui, maquiller, maquiller.
Pour rester chez Ford.
Je pense que Ford peut dire yay, parce que ça, c'est un succès, évidemment. Regardez, c'en est un exemple de réussite, c'est assez exceptionnel, on en voit. On est tous
ça, c'est hallucinant.
On en voit partout.
Ouais.
On en voit partout.
Puis c'est la preuve que quand ils mettent les efforts, ils sont capables.
Voilà.
Tu sais?
Oui. Mais moi, d'ailleurs, j'en démords pas. Ford, puis probablement tous les constructeurs, affectent ses meilleurs ingénieurs aux produits qui vont se vendre. Alors, l'Explorer qui est arrivé au début des années 90, le chef, l'ingénieur-chef de ce produit-là, à l'époque, qui a été un succès extraordinaire, c'était l'élite chez Ford. Ils affectent. Alors, je pense qu'effectivement, Mackie, pour avoir écouté plein de présentations, c'est une équipe de choc. Là. Sûrement, c'est les bolés là, qui ont été affectés à ce projet-là, parce que c'est un projet qui était crucial, qui était important. Puis on regarde le résultat.
Puis c'est pas les mêmes que l'Écosport.
Non, c'est l'équipe ça, l'Écosport.
C'est le quatrième trio.
C'est le quatrième trio. En parlant en langage,
c'est ça.
C'est la Ligue Junior B, voilà.
Ouais. Mais bref, Maverick, moi, ça va débarquer ici. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui pensaient peut-être s'acheter, par exemple, un Kona, qui pensaient s'acheter une Elantra, un truc de même, puis qui vont faire « Hey! »
Pour le même prix, je peux avoir ce véhicule-là, très cool, qui consomme pas nécessairement plus et qui va me permettre au printemps d'aller chercher mes sacs de paillis avec ça, de transporter peut-être une moto marine, là, tout dépendant de la version choisie, donc d'avoir un véhicule plus pratique. Et ça, ben, il faut quand même le mentionner, toutes les versions vont être quatre portes, là. Donc on faisait des blagues avec la cabine régulière au début de l'entrevue, mais là, ça va être un authentique véhicule quatre portes.
Ouais.
C'est un 5 places, absolument 5 places. Puis ce que j'ai trouvé encore là en regardant ce qui est photographié, ce qui nous a été présenté, il y a une chose que je remarque dans le Maverick, comme je l'ai remarqué, j'en ai parlé tantôt, dans le Bronco Sport, même les F-150, tous les gadgets, il y a une équipe là, chez Ford qui imagine des petits accessoires qui ont la cool, mais je trouve qu'on n'est pas loin. On est pas mal dans la gadgetisation à certains moments. Je me demande à quel point ça va être utile,
et
durable, certaines de ces québécois gogosses-là.
Ben, tu sais, c'est le gag qu'on avait fait.
Avec le F-150, on avait poussé le bouchon un peu trop, là, parce que, d'avoir un porte-crayon sur le haillon, là, on s'en fout totalement, là.
D'avoir la mesure comme si c'était un tape à mesurer pour ton haillon arrière. Ouais. Bon, Ève-Marie, à Salut Bonjour, avait dit moi, j'aime ça, je peux mesurer mes poissons quand je vais à la pêche.
Mais c'est tout, là.
C'est ça. Mais remarque.
Les poissons sont toujours gros comme ça. On ne sait jamais comme quoi, mais ils sont gros comme ça.
Mais tu sais, c'est pas les premiers à tomber dans la gadgetisation, comme tu dis, Marc. Souviens-toi, Chrysler, avec la Caliber, avec le Nitro, cette époque-là, la Caravane en 2008, la quantité de bébelles qu'on avait mis là-dedans.
Même avec les camionnettes GM, là, où le haillon se déplie de 72 manières, là, tu sais.
Ouais, tu vas rouler dans le sable, puis après ça, c'est pas nettoyable, là.
Ben, c'est ça. C'est plein de gadgets.
C'est ce genre de choses-là. Ouais. Chez Ford, je reconnais un petit peu ça. Mais je pense que la matière est quand même, la viande est là quand même aussi. Il y a beaucoup de bon, puis c'est souvent empêché. Je change pas vraiment de sujet. Aller parler, j'ai pensé au Santa Cruz, puis en allant voir ce qui a été présenté pour le Canada, je suis vraiment content de voir, je trouve que c'est une sage décision de la part de Hyundai Canada d'offrir seulement
4 roues motrices.
Puis avec le 2,5 litres turbo.
Ouais.
Tandis qu'aux États-Unis, ils offrent aussi une traction avec le moteur atmosphérique de 2,5 litres. Alors, je pense que la décision a été prise. C'est beaucoup plus simple. Comme il y a beaucoup moins de matière, il y a beaucoup moins de gadgets chez Hyundai. Puis je pense que vous allez être d'accord pour dire que ça vise pas le le même public.
Je ne pense
mais
pas.
Mais Antoine, je pense pas. Moi, à mes yeux, spontanément, je suis vraiment pas sûr que ça va intéresser le même acheteur que le Ridgeline. Puis déjà, le Ridgeline, c'est quasiment un produit de créneau. Ça n'a pas vendu il n'a pas vendu par millions.
Mais on sait que c'est un produit que tu affectionnes particulièrement.
Non, mais le Ridgeline, le problème, le Ridgeline, il y a un problème. Il n'est pas regardable. C'est laid pour mourir. Voilà. Ça n'a pas de personnalité. C'est un produit exceptionnel. Mais sacrez-moi les designers dehors. Coulez-moi ça dans le fleuve avec un bloc de béton qu'on recommence. Bon. Ils ont tellement dessiné de modèles laid chez Honda, un après les autres, que c'est ce qui a coûté le succès de ces produits-là.
Et on le pousse pas plus qu'il faut, le Ridgeline, là.
Non, c'est ça. C'est ça. Mais on n'a pas non plus.
On n'a pas.
Il y a une pénurie de ces camions-là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un peu ça. Mais c'est la camionnette commercialisée. C'est arrivé en 2006, le Ridgeline? Écoute, 2006, le concept était extraordinaire.
C'est génial. C'est génial. Puis c'est drôle parce que Santa Cruz reprend une des choses qui nous avait frappé ou marqué le plus, c'était le fameux coffre qui est ajouté sous la plateforme à l'arrière.
Ouais.
Mais Hyundai a été assez brillant pour faire, comme tout le monde a d'ailleurs, c'est drôle, parce que tout le monde a imité Hyundai avec la troisième banquette qui se repliait dans le plancher dans les fourgonnettes. Hein, c'est la première Odyssée qui avait inventé ça, en guillemets.
Ouais, exact.
Puis là, ben, c'est la même chose. Puis c'est une bonne idée, puis tant mieux. C'est de bonne guerre.
Je doute seulement, moi personnellement, je doute seulement du rendement. Ouais. Je suis vraiment pas un fan de la transmission double embrayage.
Ah, ben voilà.
Non, ça, c'est une autre histoire.
On a mis ça dans le Sorento, puis dans le Santa Fe.
C'est décevant, là.
Puis c'est une transmission qui fait pas le travail. Alors, dans une camionnette, j'ai mes réserves.
J'ai vraiment surpris, ça. Oui, j'étais vraiment surpris de voir ça. À cause, justement, de ce qu'il y a eu comme. Puis, il y a une réaction saccadée. C'est surprenant. Puis, c'est certainement pas parce que la 8 rapports conventionnels n'a pas la capacité de couple.
Ben non, elle est capable, elle fait du bon boulot. Puis, bon. Puis, c'est sans doute beaucoup moins fragile. Alors, enfin, bref. Bref, Marc, merci. Merci d'avoir été avec nous autres. Tu étais là pour parler du Maverick. On a parlé 8 minutes, mais on s'est étendu. C'est parfait.
Avec son expérience, on réussit toujours à parler de plein de sujets avec lui. Merci beaucoup, Marc.
Ça me fait plaisir. À la prochaine.
À bientôt, Marc. Bye bye.